Marthe, depuis quelques jours, semblait distraite, sans tristesse. Distraite avec tristesse, j'aurais pu m'expliquer sa préoccupation par l'approche du 15 juillet, date à laquelle il lui faudrait rejoindre la famille de Jacques, et Jacques en convalescence sur une plage de la Manche. À son tour, Marthe se taisait, sursautant au bruit de ma voix. Elle supportait l'insupportable. Visite de famille, avanie, sous-entendu aigre de sa mère, bonhomme de son père, qui lui supposait un amant sans y croire. Pourquoi supportait-elle tout? Était-ce la suite de mes leçons, lui reprochant d'attacher trop d'importance aux choses, de s'affecter des moindres? Elle paraissait heureuse, mais d'un bonheur singulier, dont elle ressentait de la gêne et qui m'était désagréable, puisque je ne la partageais pas. Moi, qui trouvais enfantin que Marthe découvrit dans mon mutisme une preuve d'indifférence, à mon tour, je l'accusais de ne plus m'aimer, parce qu'elle se taisait. Marthe n'osait pas m'apprendre qu'elle était enceinte. J'eusse voulu paraître heureux de cette nouvelle, mais d'abord elle me stupéfia. N'ayant jamais pensé que je pouvais devenir responsable de quoi que ce fût, je l'étais du pire. J'enrageais aussi de n'être pas assez homme pour trouver la chose simple. Marthe n'avait parlé que contrainte, tremblait que cet enfant qui devait nous rapprocher nous séparât. Je mimais si bien l'allégresse que ses craintes se dissipèrent. Elle gardait les traces profondes de la morale bourgeoise, et cet enfant signifiait pour elle que Dieu récompenserait notre amour, qu'il ne punissait aucun crime. Alors que Marthe trouvait maintenant dans sa grossesse une raison pour que je ne la quittasse jamais, cette grossesse me consterna. À notre âge, il me semblait impossible, injuste, que nous eussions un enfant qui entraverait notre jeunesse. Pour la première fois, je me rendais à des craintes d'ordre matériel. Nous serions abandonnés de nos familles. Aimant déjà cet enfant, c'est par amour que je le repoussais. Je ne me voulais pas responsable de son existence dramatique. J'eusse été moi-même incapable de la vivre. L'instinct est notre guide, un guide qui nous conduit à notre perte. Hier, Marthe redoutait que sa grossesse nous éloignât l'un de l'autre. Aujourd'hui qu'elle ne m'avait jamais tant aimé, elle croyait que mon amour grandissait comme le sien. Moi, hier, repoussant cet enfant, je commençais aujourd'hui à l'aimer et j'ôtais de l'amour à Marthe, de même qu'au début de notre liaison, mon cœur lui donnait ce qu'il retirait aux autres. Maintenant, posant ma bouche sur le ventre de Marthe, ce n'était plus elle que j'embrassais, c'était mon enfant. Hélas, Marthe n'était plus ma maîtresse, mais une mère. Je n'agissais plus jamais comme si nous étions seuls. Il y avait toujours un témoin près de nous à qui nous devrions rendre compte de nos actes. Je pardonnais mal ce brusque changement dont je rendais Marthe seule responsable, et pourtant je sentais que je lui aurais encore pardonné si elle m'avait menti. À certaines secondes, je croyais que Marthe mentait pour faire durer un peu plus notre amour, mais que son fils n'était pas le mien. Comme un malade qui recherche le calme, je ne savais de quel côté me tourner. Je sentais ne plus aimer la même Marthe et que mon fils ne serait heureux qu'à la condition de se croire celui de Jacques. Certes, ce subterfuge me consternait. Il faudrait renoncer à Marthe. D'autre part, j'avais beau me trouver un homme, le fait actuel était trop grave pour que je me rengorgeasse jusqu'à croire possible une aussi folle, je pensais une aussi sage, existence. Car enfin, Jacques reviendrait. Après cette période extraordinaire, il retrouverait, comme tant d'autres soldats trompés à cause de circonstances exceptionnelles, une épouse triste, docile, dont rien ne décèlerait l'inconduite. Mais cet enfant ne pouvait s'expliquer pour son mari que si elle supportait, son contact aux vacances. Homme à la lâcheté l'en supplia. De toutes nos scènes, celle-ci ne fut ni la moins étrange ni la moins pénible. Je m'étonnais du reste de rencontrer si peu de lutte. J'en eus l'explication plus tard. Marthe n'osait m'avouer une victoire de Jacques à sa dernière permission et comptait, feignant de m'obéir, se refuser au contraire à lui à Granville sous prétexte des malaises de son état. Tout cet échafaudage se compliquait de dates dont la fausse coïncidence lors de l'accouchement ne laisserait de doutes à personne. « Bah, me disais-je, nous avons du temps devant nous. Les parents de Marthe redouteront le scandale. Ils l'emmèneront à la campagne et retarderont la nouvelle. » La date du départ de Marthe approchait. Je ne pouvais que bénéficier de cette absence. Ce serait un essai. J'espérais me guérir de Marthe. Si je n'y parvenais pas, si mon amour était trop vert pour se détacher de lui-même, je savais bien que je retrouverais Marthe aussi fidèle. Elle partit le 12 juillet à 7 heures du matin. Je restai à Juy la nuit précédente. En y allant, je me promettais de ne pas fermer l'œil de la nuit. Je ferais une telle provision de caresses que je n'aurais plus besoin de Marthe pour le reste de mes jours. Un quart d'heure après m'être couché, je m'endormis. En général, la présence de Marthe troublait mon sommeil. Pour la première fois, à côté d'elle, je dormis aussi bien que si j'eusse été seul. À mon réveil, elle était déjà debout. Elle n'avait pas osé me réveiller. Il ne me restait plus qu'une demi-heure avant le train. J'enrageais d'avoir laissé perdre par le sommeil les dernières heures que nous avions à passer ensemble. Elle pleurait aussi de partir. Pourtant, j'eusse voulu employer les dernières minutes à autre chose qu'à boire nos larmes. Marthe me laissait sa clé, me demandant de venir, de penser à nous, et de lui écrire sur sa table. Je m'étais juré de ne pas l'accompagner jusqu'à Paris. Mais je ne pouvais vaincre mon désir de ses lèvres, et comme je souhaitais lâchement l'aimer moins, je mettais ce désir sur le compte du départ, de cette dernière fois si fausse, puisque je sentais bien qu'il n'y aurait de dernière fois sans qu'elle le voulût. À la gare Montparnasse, où elle devait rejoindre ses beaux-parents, je l'embrassais sans retenue. Je cherchais encore mon excuse dans le fait que, sa belle famille surgissant, il se produirait un drame décisif. Revenu à F, accoutumé à n'y vivre qu'en attendant de me rendre chez Marthe, je tâchais de me distraire. Je bêchais le jardin, j'essayais de lire, je jouais à cache-cache avec mes sœurs, ce qui n'était pas arrivé depuis 5 ans. Le soir, pour ne pas éveiller les soupçons, il fallut que j'allasse me promener. D'habitude, jusqu'à la Marne, la route m'était légère. Ce soir-là, je me traînais, les cailloux me tordant le pied et précipitant mes battements de cœur. Étendu dans la barque, je souhaitais la mort pour la première fois. Mais, aussi incapable de mourir que de vivre, je comptais sur un assassin charitable. Je regrettais qu'on ne pût mourir d'ennui ni de peine. Peu à peu, ma tête se vidait avec un bruit de baignoire. Une dernière succion, plus longue, la tête est vide. Je m'endormis. Le froid d'une aube de juillet me réveilla. Je rentrai transi chez nous. La maison était grande ouverte. Dans l'antichambre, mon père me reçut avec dureté. Ma mère avait été un peu malade. On avait envoyé la femme de chambre me réveiller pour que j'allasse chercher le docteur. Mon absence était donc officielle. Je supportais la scène en admirant la délicatesse instinctive du bon juge qui, entre 1000 actions d'aspect blâmable, choisit la seule innocente pour permettre au criminel de se justifier. Je ne me justifiais d'ailleurs pas, c'était trop difficile. Je laissais croire à mon père que je rentrais de J. Et lorsqu'il m'interdit de sortir après le dîner, je le remerciais à part moi d'être encore mon complice et de me fournir une excuse pour ne plus traîner seul dehors. J'attendais le facteur. C'était ma vie. J'étais incapable du moindre effort pour oublier. Marthe m'avait donné un coupe-papier, exigeant que je ne m'en servisse que pour ouvrir ses lettres. Pouvais-je m'en servir? J'avais trop de hâte. Je déchirais les enveloppes. Chaque fois, honteux, je me promettais de garder la lettre un quart d'heure intacte. J'espérais, par cette méthode, pouvoir à la longue reprendre de l'empire sur moi-même, garder les lettres fermées dans ma poche. Je remettais ce régime au lendemain. Un jour, impatienté par ma faiblesse et dans un mouvement de rage, je déchirais une lettre sans la lire. Dès que les morceaux de papier eurent jonché le jardin, je me précipitais à quatre pattes. La lettre contenait une photographie de Marthe. Moi, si superstitieux et qui interprétait les faits les plus minces dans un sens tragique, j'avais déchiré ce visage. Je vis un avertissement du ciel. Mes transes ne se calmèrent qu'après avoir passé 4 heures à recoller la lettre et le portrait. Jamais je n'avais fourni un tel effort. La crainte qu'il arrive un malheur à Marthe me soutint pendant ce travail absurde qui me brouillait les yeux et les nerfs. Un spécialiste avait recommandé les bains de mer à Marthe. Tout en m'accusant de méchanceté, je les lui défendis, ne voulant pas que d'autres que moi puissent voir son corps. Du reste, puisque de toute manière Marthe devait passer un mois à Granville, je me félicitais de la présence de Jacques. Je me rappelais sa photographie en blanc que Marthe m'avait montrée le jour des meubles. Rien ne me faisait plus peur que les jeunes hommes sur la plage. D'avance, je les jugeais plus beaux, plus forts, plus élégants que moi. Son mari la protégerait contre eux. À certaines minutes de tendresse, comme un ivrogne qui embrasse tout le monde, je rêvassais d'écrire à Jacques, de lui avouer que j'étais l'amant de Marthe et, m'autorisant de ce titre, de la lui recommander. Parfois, j'enviais Marthe, adorée par Jacques et par moi. Ne devions-nous pas chercher ensemble à faire son bonheur? Dans ces crises, je me sentais amant complaisant. J'eusse voulu connaître Jacques, lui expliquer les choses, et pourquoi nous ne devions pas être jaloux l'un de l'autre. Puis, tout à coup, la haine redressait cette pente douce. Dans chaque lettre, Marthe me demandait d'aller chez elle. Son insistance me rappelait celle d'une de mes tantes fort dévotes, me reprochant de ne jamais aller sur la tombe de ma grand-mère. Je n'ai pas l'instinct du pèlerinage. Ces devoirs ennuyeux localisent la mort, l'amour. Ne peut-on penser à une morte ou à sa maîtresse absente, ailleurs qu'en un cimetière ou dans certaines chambres? Je n'essayais pas de l'expliquer à Marthe, et lui racontais que je me rendais chez elle. De même à ma tante, que j'étais allé au cimetière. Pourtant, je devais aller chez Marthe, mais dans de singulières circonstances. Je rencontrai un jour, sur le réseau, cette jeune fille suédoise à laquelle ses correspondants défendaient de voir Marthe. Mon isolement me fit prendre goût aux enfantillages de cette petite personne. Je lui proposais de venir goûter à J et en cachette le lendemain. Je lui cachais l'absence de Marthe pour qu'elle ne s'effarouchât pas et ajoutais même combien elle serait heureuse de la revoir. J'affirme que je ne savais au juste ce que je comptais faire. J'agissais comme ces enfants qui, liant connaissance, cherchent à s'étonner entre eux. Je ne résistais pas à voir surprise ou colère sur la figure d'ange de Svea quand je serais tenu de lui apprendre l'absence de Marthe. Oui, c'était sans doute ce plaisir puéril d'étonner, parce que je ne trouvais rien à lui dire de surprenant, tandis qu'elle bénéficiait d'une sorte d'exotisme et me surprenait à chaque phrase. Rien de plus délicieux que cette soudaine intimité entre personnes qui se comprennent mal. Elle portait au cou une petite croix d'or émaillée de bleu, qui pendait sur une robe assez laide que je réinventais à mon goût. Une véritable poupée vivante. Je sentais croître mon désir de renouveler ce tête-à-tête ailleurs qu'en un wagon. Ce qui gâtait un peu son air de couventine, c'était l'allure d'une élève de l'école Pigier, où d'ailleurs elle étudiait 1 heure par jour, sans grand profit, le français et la machine à écrire. Elle me montra ses devoirs dactylographiés. Chaque lettre était une faute, corrigée en marche par le professeur. Elle sortit d'un sac à main affreux, évidemment son œuvre, un étui à cigarette orné d'une couronne comtale. Elle m'offrit une cigarette. Elle ne fumait pas, mais portait toujours cet étui parce que ses amis fumaient. Elle me parlait du coutume suédoise que je feignais de connaître, nuit de la Saint-Jean, confiture de myrtille. Ensuite, elle tira de son sac une photographie de sa sœur jumelle, envoyée de Suède la veille, à cheval, toute nue, avec sur la tête un chapeau de forme de leur grand-père. Je devins écarlate. Sa sœur lui ressemblait tellement que je la soupçonnais de rire de moi et de montrer sa propre image. Je me mordais les lèvres pour calmer leur envie d'embrasser cette espiègle naïve. Je dus avoir une expression bien bestiale, car je la vis peureuse, cherchant des yeux le signal d'alarme. Le lendemain, elle arriva chez Marthe à 4 heures. Je lui dis que Marthe était à Paris, mais rentrerait vite. J'ajoutais, elle m'a défendu de vous laisser partir avant son retour. Je comptais ne lui avouer mon stratagème que trop tard. Heureusement, elle était gourmande. Ma gourmandise à moi prenait une forme inédite. Je n'avais aucune faim pour la tarte, la glace à la framboise, mais souhaitais être tarte et glace dont elle approcha la bouche. Je faisais avec la mienne des grimaces involontaires. Ce n'est pas par vice que je convoitais Svea, mais par gourmandise. Ses joues m'eussent suffi, à défaut de ses lèvres. Je parlais en prononçant chaque syllabe pour qu'elle comprît bien. Excité par cette amusante dînette, je m'énervais, moi toujours silencieux, de ne pouvoir parler vite. J'éprouvais un besoin de bavardage, de confidences enfantines. J'approchais mon oreille de sa bouche. Je buvais ses petites paroles. Je l'avais contrainte à prendre une liqueur. Après, j'eus pitié d'elle comme d'un oiseau qu'on grise. J'espérais que sa griserie servirait mes desseins, car peu importait qu'elle me donnât ses lèvres de bon cœur ou non. Je pensais à l'inconvenance de cette scène chez Marthe, mais, me répétais-je en somme, je ne retire rien à notre amour. Je désirais Svea comme un fruit, ce dont une maîtresse ne peut être jalouse. Je tenais sa main dans mes mains, qui m'apparurent pataudes. J'aurais voulu la déshabiller, la bercer. Elle s'étendit sur le divan. Je me levai, me penchai à l'endroit où commençaient ses cheveux, duvet encore. Je ne concluais pas de son silence que mes baisers lui fussent plaisir. Mais incapable de s'indigner, elle ne trouvait aucune façon polie de me repousser en français. Je mordillais ses joues, m'attendant à ce qu'un jus sucré jaillisse, comme des pêches. Enfin, j'embrassais sa bouche. Elle subissait mes caresses, patiente victime, fermant cette bouche et les yeux. Son seul geste de refus consistait à remuer faiblement la tête, de droite à gauche et de gauche à droite. Je ne me méprenais pas, mais ma bouche y trouvait l'illusion d'une réponse. Je restais auprès d'elle comme je n'avais jamais été auprès de Marthe. Cette résistance, qui n'en était pas une, flattait mon audace et ma paresse. J'étais assez naïf pour croire qu'il en irait de même ensuite et que je bénéficierais d'un viol facile. Je n'avais jamais déshabillé de femme. J'avais plutôt été déshabillé par elle. Aussi, je m'y pris maladroitement, en commençant par lui ôter ses souliers et ses bas. Je baisais ses pieds, ses jambes. Mais quand je voulus dégrafer son corsage, Svea se débattit comme un petit diable qui ne veut pas aller se coucher et que l'on défait de force. Elle me rouait de coups de pied. J'attrapais ses pieds au vol, je les emprisonnais, les baisais. Enfin, la satiété arriva comme la gourmandise s'arrête après trop de crème et de friandises. Il fallut bien que je lui apprisse ma supercherie et que Marthe était en voyage. Je lui fis promettre, si elle rencontrait Marthe, de ne jamais lui raconter notre entrevue. Je ne lui avouai pas que j'étais son amant, mais le lui laissai entendre. Le plaisir du mystère lui fit répondre « à demain », quand, rassasié d'elle, je lui demandai par politesse si nous nous reverrions un jour. Je ne retournai pas chez Marthe, et peut-être Svea ne vint-elle pas sonner à la porte close. Je sentais combien blâmable pour la morale courante était ma conduite, car sans doute sont-ce les circonstances qui m'avaient fait paraître Svea si précieuse, ailleurs que dans la chambre de Marthe. L'eussais-je désiré? Mais je n'avais pas de remords. Et ce n'est pas en pensant à Marthe que je délaissais la petite Suédoise, mais parce que j'avais tiré d'elle tout le sucre. Quelques jours après, je reçus une lettre de Marthe. Elle en contenait une de son propriétaire lui disant que sa maison n'était pas une maison de rendez-vous. Quel usage je faisais de la clé de son appartement où j'avais emmené une femme. « J'ai une preuve de ta traîtrise, » ajoutait Marthe, « et elle ne me reverrait jamais. Sans doute souffrirait-elle, mais elle préférait souffrir plutôt que d'être dupe. Je savais ces menaces anodines et qu'il suffirait d'un mensonge ou même au besoin de la vérité pour les anéantir. Mais il me vexait que dans une lettre de rupture, Marthe ne me parlât pas de suicide. » Je l'accusais de froideur, je trouvais sa lettre indigne d'explication. Car moi, dans une situation analogue, sans penser au suicide, j'aurais cru par convenance en devoir menacer Marthe. Trace indélébile de l'âge du collège, je croyais certains mensonges commandés par le code passionnel. Une besogne neuve dans mon apprentissage de l'amour se présentait. M'innocenté vis-à-vis de Marthe, et l'accusait d'avoir moins de confiance en moi qu'en son propriétaire. Je lui expliquai combien habile était cette manœuvre de la coterie marin. En effet, Svea était venue la voir un jour où j'écrivais chez elle, et si j'avais ouvert, c'est parce que, ayant aperçu la jeune fille par la fenêtre, et sachant qu'on l'éloignait de Marthe, je ne voulais pas lui laisser croire que Marthe lui tenait rigueur de cette pénible séparation. Sans doute venait-elle en cachette et au prix de difficultés sans nombre. Ainsi pouvais-je annoncer à Marthe que le cœur de Svea lui demeurait intact. Et je terminai en exprimant le réconfort d'avoir pu parler de Marthe chez elle avec sa plus intime compagne. Ah, cette alerte me fit maudire l'amour qui nous force à rendre compte de nos actes. Alors que j'eusse tant aimé n'en a jamais rendre compte à moi, pas plus qu'aux autres. Il faut pourtant, me disais-je, que l'amour offre de grands avantages, puisque tous les hommes remettent leur liberté entre ses mains. Je souhaitais être assez fort pour me passer d'amour, et ainsi n'avoir à sacrifier aucun de mes désirs. J'ignorais que, servitude pour servitude, il vaut encore mieux être asservi par son cœur que l'esclave de ses sens. Comme l'abeille butine et enrichit la ruche, de tous ses désirs qui le prennent dans la rue, un amoureux enrichit son amour. Il en fait bénéficier sa maîtresse. Je n'avais pas encore découvert cette discipline qui donne aux natures infidèles la fidélité. Qu'un homme convoite une fille et reporte cette chaleur sur la femme qu'il aime, son désir plus vif parce que insatisfait, laissa croire à cette femme qu'elle n'a jamais été mieux aimée. On la trompe, mais la morale, selon les gens, est sauve. À de tels calculs commence le libertinage, qu'on ne condamne donc pas trop vite certains hommes capables de tromper leur maîtresse au plus fort de leur amour, qu'on ne les accuse pas d'être frivoles. Ils répugnent à ce subterfuge et ne songent même pas à confondre leur bonheur et leur plaisir. Marthe attendait que je me disculpasse. Elle me supplia de lui pardonner ses reproches. Je le lis, non sans façon. Elle écrivit au propriétaire, le priant ironiquement d'admettre qu'en son absence, j'ouvrisse à une de ses amies.